Un tango,
une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, plus 21 ans.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Le ciel est un espace infini qui embrasse tout. Le ciel assure le cours des choses. Le ciel laisse venir. J'ai choisi ce titre parce que le ciel ne privilégie rien, aucun moment, aucun être. Du ciel, je retiens l'ouverture comme adresse pour cette danse, l'adresse comme lieu et aussi comme direction. Lorsque je m'adresse, un espace est créé parce que je cherche à toucher le dehors. Je m'épaissis parce que je suis ici et là-bas. Aller dans la direction du dehors a déformé le corps. Il est devenu nerveux, désastreux, saturé. Dans cette danse d'adresse, le corps est resté peuplé. Si peuplé qu'il écrit sa danse en pensant qu'il est un corps quelconque. Laisse-moi te regarder, spectateur. Laisse-moi te raconter qu'un jour, j'ai eu toutes les idées. Volmir Cordero, votre spectacle Ciel se joue au Centre Pompidou à Paris du 5 au 7 avril prochain. C'est l'occasion de parler de ce travail et de votre travail en général. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
J'ai lu un texte qui parle du titre que vous donnez à cette pièce. C'est un texte qui date un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ?
Je continue avec la même pensée. Ça me fait trop plaisir de l'entendre ici. Quand j'ai commencé cette création, c'était très important de prendre cette notion d'immensité, de l'idée d'une grande ouverture, que j'ai commencé par imaginer un espace, une scène, un plateau très grand, et pouvoir aller donc dans toutes les directions. Comme c'était mon premier solo, j'avais vraiment l'idée de ne pas être tout à fait très exclusif dans un choix d'une thématique, d'un propos chorégraphique, et de pouvoir donc laisser ouvert cette possibilité. Le ciel m'a paru comme une très belle métaphore pour ça, dans l'idée qui, comme je l'ai dit, ça peut assurer le cours de choses, ça peut laisser venir une idée aujourd'hui et une autre idée demain. Donc ça a dégagé aussi une pratique quotidienne de pouvoir rentrer dans le studio avec beaucoup d'idées, d'avoir plein d'idées et en même temps de ne rester pas longtemps dans n'importe quelle idée non plus. Donc laisser cet espace très ouvert et immutable, changeable.
D'un seul coup, peut-être votre corps devint ciel, puisque une idée la traverse, une idée de corps, un état de corps, des gestes la traverse de manière très forte, on le voit sur scène, et en effet ne reste pas forcément toujours longtemps et s'en va. Le ciel, c'est quelque chose qui embrasse tout, et dans votre texte, vous dites « Spectateur, laisse-moi te regarder ». Or, dans votre pièce, Volmir Cordero, on entend une musique à un moment donné qui demande au poisson de se laisser voir.
Tout à fait. C'était justement, c'était à la fin du processus de la création où j'entendais souvent cette musique, une musique des années 70 qui appartenait à un groupe très contestateur au Brésil qui militait pas mal contre la dictature, Doces Barbados. Et j'entendais cette chanson et je voyais dans cette phrase exactement l'effet que je voulais produire sur scène, c'est-à-dire cet être. Je voulais proposer un être qui danse, un être de la non-fixation, comme un corps qui ne pourrait jamais être complètement saisi. Et donc c'est cette danse qui c'est une danse d'un dessaisissement constant, permanent, qui va de partout dans l'espace. Quand on a l'impression de l'avoir compris ou de l'avoir un peu attrapé par le regard, il est déjà disparu. Donc c'est pour ça que cette idée du laisse-moi te regarder, c'est pour entretenir plutôt ces jeux de je vous regarde aussi d'ici, parce que je cherche à être là où vous êtes, mais il faut que je reste ici, que j'affirme cette séparation entre nous pour qu'elle puisse nourrir cette volonté de casser cette séparation. On va parler de quatrième mur, j'utilise pas trop cette expression, mais j'aime bien imaginer que tout seul sur le plateau, je fais un groupe d'êtres, une multitude rassemblée dans un corps et qui est face à un autre groupe, divisé par une pellicule peut-être très fine qui nous sépare, et que ces corps va chercher à briser, à casser, à troubler, tout en préservant cette ligne séparatrice.
pour reprendre Les Doux Barbares, qui est donc la traduction française de ce groupe musical qui est créé à ce moment-là, qui est créé par des musiciens qui, au moment d'une dictature qui se durcit au Brésil, émigrent, s'exilent même, pour être plus précis, dans différentes ville palpitante au niveau de la création et crée entre autres par exemple le mouvement tropicaliste et décide d'un point de vue musical de s'accaparer, voire de cannibaliser la musique populaire brésilienne, de la faire rentrer en eux pour en faire autre chose. Si on revient à ce que vous proposez sur scène, Volmir Cordeiro, dans ce ciel, dans ce corps qui est plein de corps, on a vraiment l'impression, même visuellement, que vous avez incorporé d'autres personnes.
Oui. Alors, je dirais plutôt peut-être incarné, dans l'idée que incarner, ça veut dire plus que de faire corps, c'est aussi donner chair. Donc, la notion de chair a été très importante dans le sens que c'est pas juste une revenir à un seul, c'est même si c'est important de traverser plusieurs figures, traverser plusieurs personnes, personnages, situations, et de rassembler tout ça dans un corps qui est le mien, c'est le corps tout seul sur scène, mais c'est important d'aller chercher la chair dans le sens que elle apporte des affections, elle a un tonus variable, modulable, elle est affectée, elle se permet d'être affectée. Et pour ces processus, pour cette création, c'était très important de m'affecter avec des références visuelles, corporelles que j'avais beaucoup au Brésil, juste avant de quitter le Brésil justement. C'est-à-dire que quand j'arrive en France en 2011 pour faire l'école au Centre National de la Danse, à l'époque dirigé par Emmanuel Wynne, le premier constat a été en sorte de manques d'absence de certaines corporalités qui étaient très présentes dans mon quotidien là-bas et que je ne voyais plus du tout dans la ville d'Angers. Donc ces chocs, on va dire perceptibles de changer de ville, de passer de Rio de Janeiro à Angers, ça m'a fait absolument mettre en route un travail d'imagination. Donc j'essaye de, par l'imagination, voir comment je peux me reconnecter avec des corps absents dans ces nouveaux contextes, qui j'essaye de me connecter physiquement, gestuellement. Donc j'ai pensé à chaque fois quels étaient les lieux que j'ai fréquenté le plus à Rio, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit dans la favela où j'ai travaillé avec la chorégraphe Lia Rodriguez, que ce soit à l'université, dans les fêtes que je faisais, dans les manifestations que j'allais, dans différents corps étaient disparus et qui me manquaient énormément. Donc dans les studios, j'essayais réinstaurer ces situations et voir comment je peux devenir un fêtard, comment je peux devenir quelqu'un qui est en train de travailler à la rue, ou quelqu'un qui a un métier qui n'a pas assez de privilèges, ou quelqu'un qui ne fait pas un geste reconnu. Et je commençais à lister, je passais par la figure de la prostituée, du mendiant, ou de personnes abandonnées, ou des femmes qui faisaient des accouchements dans la rue. Je me souviens une fois d'avoir traverser une situation comme ça où je savais pas comment réagir, quoi faire d'une femme qui faisait son accouchement par terre dans la rue et des images qui étaient absolument frappantes et cette capacité d'être interrompue tout le temps dans les rues au Brésil, c'est une chose que parfois j'essaie de retrouver cette sensation en France, mais surtout au moment où j'arrivais à Angers. Donc c'est pour ça que je vais chercher cette connexion. Et l'imagination a été une source très importante pour ça, d'autant plus qu'elle me permettait de m'adapter dans ces nouveaux contextes. C'est-à-dire que revenir dans mon pays d'origine par l'imagination me permettait de fortifier un ancrage en France, vu que je ne mesurais pas la force de ces changements avant de le faire.
Vous dites ce corps, il reste peuplé, il est tellement peuplé qu'il pense qu'il est un corps quelconque. Donc ça veut dire que dans ce solo-là, Volmir Cordeiro, vous avancez et vous entrez sur scène en pensant que votre corps est quelconque.
Oui, je pense que ça fait partie aussi d'une sorte, on va dire, d'ontologie de l'expérience du danseur, c'est-à-dire d'aller chercher cet abandon de l'identité. Je pense que c'est une question qui nous a traversé et qui nous traverse de plus en plus, c'est-à-dire d'interroger le corps dans le sens qu'il puisse quitter cette obligation d'être ça et ne pas être ça, d'être blanc, d'être grand, d'être brésilien. Et je pense que quand on arrive à l'étranger, ça devient ça devient une question encore plus forte, dans le sens que on a identifié forcément, on a besoin d'un passeport, on a besoin d'un passage, et ça je parle encore de ma position qui est une position privilégiée, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à le faire. Il faut parler aussi pour changer le passage de ceux qui ont du mal à passer justement. Et je pense qu'au départ, devenir quelconque, c'était une façon d'avouer un certain type de singularité, une façon spécifique de danser, ou, comme je disais tout à l'heure, devenir un être, un geste, ou faire une danse où elle ne peut jamais être cadrée, complètement définie. Donc, c'est le désir d'interroger le corps dans sa mutation, dans sa métamorphose constante. C'est pour ça qu'il pourrait devenir un quelconque, dans le sens qu'il n'a aucune identité, aucune forme d'identification que je vais mettre en avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dis pas que j'ai réussi, mais c'était l'intention du projet, de faire ce corps travailler dans le sens qu'il va à chaque fois perdre sa tête, perdre sa figure, et gagner une nouvelle figure, et changer de caractère, et changer de figure, devenir très autoritaire, devenir très soumis à quelque chose. Imaginez qu'il y a quelqu'un autour, imaginez qu'il est tout seul. Donc, j'ai inventé plusieurs situations. Disons, la pièce, dans son écriture, elle a à peu près 82 situations imaginaires que je défile pendant que je danse et que je fais courir, on va dire. Et c'est très important de savoir passer d'une chose à l'autre. Alors ça, c'est un propos très, très difficile. Hein. C'est très difficile aussi de quitter l'identité. Donc, mon stratégie, c'était de switcher, on va dire, de faire une claque dans chaque image pour passer à une nouvelle figure. Et parfois c'est dur parce que je n'arrive pas à abandonner les traces de la figure précédente, c'est-à-dire il y a toujours des résidus qui restent, mais mon désir c'est à chaque fois de pouvoir bouleverser la figure, de lui donner un choc au point qu'elle puisse vraiment passer à un autre hétérogène. C'est jamais très complètement réussi, mais c'est le désir qui me travaille, c'est la question qui m'intéresse la plus, c'est devenir quelconque comme une permissivité, de pouvoir plonger dans un monde où on se débarrasse parfois de toutes les implications juridiques ou les implications des modes ou alors du succès ou d'attachement que l'identité elle est censée produire.
Et quand vous dites figure, on peut aussi entendre un peu visage.
On a souvent le présupposé que le visage parle alors que la parole ment. On a bien quelque chose de cet ordre-là. Il y a une vérité dans le corps, une vérité première, même primitive. Dans toute la tradition qui est la nôtre d'interprétation du visage, on a situé le visage comme lieu privilégié de la vérité. Le regard, peut-être encore plus que le visage lui-même, le regard dans le visage comme lieu ultime de la vérité d'un sujet. De là, hein, toutes ces herméneutiques du visage, c'est-à-dire toutes ces procédures de déchiffrement qui ont proposé, selon différentes formes, à différentes époques, des manières de voir le visage, de le déchiffrer, de le décrypter, de façon à faire ressurgir une vérité cachée. Quand on travaille sur la question de l'histoire du visage, de l'histoire des discours sur le visage, et des interprétations dont il a été l'objet, c'est en aucun cas une telle vérité qu'on trouve, ni d'ailleurs, pas plus de mensonges. Ce qu'on trouve, c'est un déplacement de la question du visage comme lieu de vérité ou de mensonge. Il y a des manières de voir qui sont écrites, décrites. Et le visage est lui-même, en tant qu'on porte un regard dessus, quelque chose qui, dans le regard même qui est le nôtre, se trouve réglé par des discours qui disent, par exemple, lorsque vous commencez à regarder un visage, commencez par ici ou par là, donnez plus d'importance à ce trait ou à cet autre. Il y a un rapport entre ces manières de dire le visage et nos manières de les voir.
Paul-Mire Cordero, c'est une archive de 1988, c'est Jean-Jacques Courtine, co-auteur de cette histoire du visage, et qui dit « il faut déplacer la question du visage comme le lieu de la vérité ou du mensonge ». Il faut absolument, puisque vous parliez d'échapper à des questions juridiques, ben là il faut échapper à quelque chose qui dirait que le visage c'est le lieu de ça. Il se trouve que votre corps n'oublie jamais le visage quand il danse, certainement pas, et vous dansez très très profondément du sourcil au menton. Est-ce que c'est aussi cet endroit-là que vous voulez désamorcer? À la fois utiliser et en même temps, lui aussi presque le rendre quelconque.
J'ai dit souvent à moi-même et après quand je suis avec les danseurs que c'est très important de commencer à ressentir le visage, de commencer à fabriquer la danse par ce qu'on ressent du visage, comme si tout ce qui s'est passé dans les visages va commencer à irriguer, va commencer à se déplacer vers le reste du corps jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage. Puis parfois, je fais un autre exercice, c'est le contraire, c'est d'essayer de voir, de situer une autre partie du corps. On va commencer par le centre, on va commencer par les jambes, et on va donner une sorte d'expression. On va imaginer les jambes comme le déplacement du visage, avec deux yeux, avec le nez, la bouche, les joues, l'oreille, les sourcils. Et on va imaginer comment, de ces bas du corps, on va dire, des jambes, ça va commencer à nourrir une expression qui va contaminer le reste du corps. Je trouve que souvent, quand on danse ou quand on est en train de créer une danse, il y a des idées, il y a des sensations qu'on n'arrive pas complètement à exprimer. On peut parler d'une insuffisance expressive. Il y a quelque chose qui ne se complète pas. Et que souvent, le visage vient compléter. Même là, quand je gesticule avec les mains, j'ai l'impression que les mains viennent aussi rendre compte de quelque chose que ma parole n'est pas en train de complètement rendre visible ou accessible. Et ça, quand on danse, me semble très clair, ou c'est quelque chose que je suis très sensible de voir où il y a une échappatoire, un mouvement qui échappe, qui essaye de se consolider dans un autre part du corps qui est, disons, une partie inconsciente où l'attention n'est pas complètement dirigée. Et dans ce sens, j'aime bien penser le visage justement au-delà d'un simulacre, ou d'une quelque chose qui va cacher ou va révéler une vérité ou quelque chose qu'on cache, mais plutôt comme l'endroit où l'espace d'une simultanéité, l'endroit où se passent plusieurs choses en même temps. Encore une fois, on essaye de garder une position, de tenir une posture, de
ce qu'on appelle faire bonne figure, d'ailleurs.
Faire bonne figure, tout à fait, de dégager une image, de garder un contrôle aussi sur le visage, alors que ça se produit aussi parfois tout seul. J'ai la sensation forte que ça nous échappe, le contrôle, et on n'arrive pas complètement à maîtriser. Et c'est là où la sociabilité se passe, dans cette simultanéité, parce que ça va, comme disait très bien cette phrase. Oui, mais aussi, j'ai pensé à la phrase de Roland Barthes quand il dit « Mon corps n'a pas les mêmes idées que moi-même ». C'est-à-dire, j'ai pas les mêmes idées que mon corps. Et ça, je tiens beaucoup à ça. Je pense qu'il y a des apparitions, il y a des événements que le corps, il réalise, qui nous échappent. Et le visage, il devient ces lieux d'exposition puissant, pour dire cela.
Est-ce que ça veut dire que vous le distinguez, le visage, du reste du corps, ou est-ce que vous en faites une zone un peu spéciale?
Oui, c'est une étape du travail. Il y a un moment où j'aime bien fragmenter le corps, imaginer des niveaux d'expression différents qui puissent surgir si on danse qu'avec les épaules, ou qu'on danse qu'avec la poitrine, ou qu'on déplace justement l'idée de jambes vers le visage, ou un visage au centre du corps, ou des fesses qui vont devenir des visages. C'est des altérations pour voir aussi quels sont les types de hiérarchies qu'on établit avec le corps quand on se met à danser.
Mais dans un deuxième temps, tout est réuni.
Dans un deuxième temps, je commence à composer. C'est pas que tout va être réuni. Réuni, ça va être un type des catégories, un type de composition, mais il va y avoir d'autres où, justement, il va falloir que ça reste fragmenté, où le visage se passe une chose, il y a une figure qui est activée par le visage qui doit contredire la figure qui se passe dans le reste du corps ou qui se passe autrement dans les mains. Et ça, c'est un rapport de montage, démontage et remontage qui va produire, justement, d'autres types d'hybridation pour, justement, rendre la figure étrangère.
On disait tout à l'heure, en reprenant ce texte qui vient expliquer le choix de votre titre « Ciel » au moment de la création de ce solo, que le ciel embrasse tout et assure le cours des choses. Sur le plateau, tout le ciel n'est pas de la même lumière et il y a des marges qui sont sombres.
On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées, du repos et du chez-soi. Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont en quelque sorte absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les compenser, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces. ces contre-espaces, ces utopies localisées, eh bien, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin. Bien sûr, c'est le grenier, ou mieux encore, la tente d'Indien, dressée au milieu du grenier. Ou encore, c'est le jeudi après-midi, le grand lit des parents. Eh bien, c'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures. Et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts. C'est la forêt, puisqu'on s'y cache. C'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps. C'est le plaisir, enfin, puisque, à la rentrée des parents, on va être puni. Ces contre-espaces, à vrai dire, ce n'est pas la seule invention des enfants. Je crois tout simplement parce que les enfants n'inventent jamais rien. Ce sont les hommes, au contraire, qui ont inventé les enfants, qui leur ont chuchoté leurs merveilleux secrets, et ensuite, ces hommes, ces adultes, ils s'étonnent lorsque les enfants, à leur tour, les leur cornent aux oreilles. La société adulte a organisé, elle-même, et bien avant les enfants, ses propres contre-espaces, ses utopies situées, ses lieux réels hors de tous les lieux.
C'est une conférence de 1966 de Michel Foucault, diffusée à la radio. Volmir Cordero, je précisais avant qu'on entende cette archive que le plateau sur lequel vous dansez, il est bordé de noir, il est bordé d'une obscurité dans laquelle parfois vous continuez de danser, mais dans laquelle on ne vous voit plus. Ça a quoi comme valeur, ces marges noires ?
Je pense qu'avec les marges, l'idée c'était de désigner un espace d'apparition et de donc prendre le plateau à la fois comme cet espace qui permet d'être visible, notable, voilà, le privilège de la scène, et aussi imaginer cet espace comme une sorte de cage aussi, d'imaginer que je peux être aussi subi à ce regard. Donc travailler la question justement de la puissance du regard à assigner, du regard à affirmer le corps de l'autre, et donc de le réduire parfois, et imaginer que cette scène pourrait aussi devenir cette ambiguïté ou cette contradiction, ou cette tension entre là où je m'expose, là où je deviens aussi prisonnier de cette exposition. Donc les marges m'a paru important pour désigner ces limites et de dire il y a une limite des lumières et je garde une toute petite marge où je peux parfois m'échapper ou aller trouver un temps de pause ou faire des choses que je peux pas faire dans la lumière parce que la lumière est très simple, il s'agit d'un plein feu qui n'a pas vraiment d'effet pendant, on n'a pas de mouvement de lumière pendant les 30 minutes des pièces. Donc c'est plutôt les déplacements qui vont générer cette disparité ou cette contradiction entre quand je suis éclairé et attaché et donc exposé au regard et quand je m'en sors de cet espace pour me permettre de des situations autres, des situations qui vont dégager un autre type de liberté.
Ça veut dire que le plaisir du jeudi après-midi dont parle Michel Foucault, des enfants qui se jettent sur le lit des parents et qui peut-être vont se faire punir au retour des parents, ça pourrait connoter ces zones sombres comme possiblement l'idée que se retirer du regard, c'est être du côté du plaisir ou de la liberté. Alors que ce que vous dites aussi, Volmir Cordero, c'est que cette pièce, elle naît d'un manque de certains corps. Vous avez quitté le Brésil, vous arrivez à Angers pour continuer votre formation de danse. Et d'un seul coup, certains corps vous manquent, ils sont devenus invisibles, ils sont dans une marge de regard et vous les faites réapparaître. Donc vous placez le corps invisible pas toujours du côté de la peine, quoi. Pas toujours du côté de l'exclusion pour vous.
Non, c'est justement pas dans l'idée de rendre le corps... C'est pas l'idée de répéter justement la peine ou répéter dans le sens de reproduire le semblable ou chercher à imiter voilà le semblable, la figure qu'on peut, la personne qu'on peut trouver dans la rue. Il s'agit pas de ça. Il s'agit justement d'altérer. C'est pour ça que je tiens à l'ancien d'imagination comme une faculté poétique très présente. C'est-à-dire que par l'imagination, j'active un niveau de sensation, et c'est la sensation qui me fait travailler la mémoire de ces corps. Donc c'est un travail de distance, un travail qui se passe dans l'écart d'un continent, dans l'écart des modes de vie qui ne sont pas du tout pareils, et que donc par la sensation, j'active la mémoire. Et quand j'active la mémoire, ces corps commencent à chuter, on va dire, sur mon corps. C'est là où je parle aussi de la notion du ciel, comme si dans ce grand espace du plateau, j'ai l'impression que des corps commencent à tomber, commencent à chuter du haut. Et je commence à les incarner. Et c'est la mémoire qui va faire ce travail de me faire, disons, incarner ou posséder ces corps. Donc, l'idée, quand ils tombent, c'est que je puisse les altérer. C'est que je puisse, par cet exercice de l'imagination, comme une intensification des affects ou un mécanisme qui va intensifier mon rapport à eux, avec le corps que j'ai dans les studios, tel comme il est chauffé, tel comme il est morphologiquement, tel comme il existe là, comment ça va altérer ces figures. Donc, je tiens beaucoup à cette idée d'altérer la figure humaine. D'altérer la figure humaine dans une situation d'exclusion ou dans une situation de non-visibilité, mais qu'il ne s'agit pas du tout de reproduire son pâtir, qui n'est pas la question de justement révéler la partie carcérale, on va dire, de ses corps, mais justement de le présenter là où ils ont une force d'agir, une puissance d'agir. Et dans leur on va dire, dans leur vie nue ou dans leur vie condamnée à disparaître ou condamnée à ne pas avoir de visibilité, justement retrouver la force de cet état ou la capacité de nier à l'institution, de nier à tout ce qui peut sécuriser leur vie.
On a parlé de cette chanson qui dit « Laisse-moi te voir, poisson ». Elle dit quoi exactement?
C'est ça, « Laisse-moi te voir, poisson, poisson argenté ».
J'ai vu la lueur verte.
Déjà, je vais pêcher, déjà, je vais... Ouais, parce qu'après, il a une minute de bégaiement où il n'y a pas grand-chose. Et c'est juste du bégaiement. Et puis, c'est « laisse-moi te voir, poisson argenté ». Oui, la lune verte, exactement. Ouais.
Peace. 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 J'ai été formée dans les années 80 avec la danse abstraite américaine et pour pas le nommer le grand Merce Cunningham, pour ma plus grande joie, enfin en tout cas à l'école Merce Cunningham à New York. Et en effet, c'est l'école abstraite de la danse abstraite. Donc et à ce moment-là, en France, c'était quand même le courant dominant. Et donc, comme beaucoup des personnes qui ont été formées en même temps que moi, j'ai envie de dire pas échapper au courant dominant pour ma plus grande joie. Hein. Mais ce qui était un peu dommage, c'est une forme de cécité sur tout ce qui se passait en dehors de ce courant. Qu'en fait, je suis arrivée au récit par une danse qui me semblait ne pas renoncer au récit, qui était la danse abstraite, la danse moderne allemande. Donc du début de la modernité en danse, pour la situer vraiment, je parlerai de Marie Wigman. Les premiers travaux que j'ai vus de Marie Wigman, c'est le fameux solo de la sorcière qui date de 1926. Mais évidemment, Valeska Gerdt qui a énormément marqué mon travail. Et donc quand je dis que ces danses, elles sont très différentes, hein, c'est deux artistes très différentes, même si elles sont souvent regroupées autour, on va dire, de la danse du début de la modernité en danse allemande. Elles sont quand même très différentes, mais l'une dépeint justement un corps social, enfin je dirais vraiment Valeska Gerdt, hein, elle joue dans des cabarets, elle s'inspire vraiment de figures du réel, de figures aussi minoritaires, et à travers une danse comme Mackerel ou à travers la danse de la mort ou bien d'autres danses, elle réincarne comme ça une sorte de sujet du récit du monde qu'elle traverse. Marie Wigman très différemment parce que je pense pas qu'elle, enfin elle est pas, en tout cas elle traduit pas le réel de cette façon-là. Néanmoins, la question du récit est très très présente, et notamment dans cette danse incroyable de la sorcière où en effet il y a non seulement une conduite dramaturgique, mais il y a un régime de récit.
C'est une archive de 2011. La chorégraphe et danseuse Latifa Labissi était venue ici parler sur France Culture de son travail. Elle évoque là le parcours depuis sa formation avec Merce Cunningham jusqu'à découvrir une danse qui s'autorise plus de dramaturgie, un rapport au réel jusqu'au récit. Et dans la suite de l'archive, d'ailleurs, elle parle de son autorisation à la parole. D'un seul coup, un jour, elle se dit « Pourquoi je serais une danseuse muette ? Je vais aussi parler sur le plateau et Dieu sait si elle le fait. » Latifa Labissi, Volmir Cordero, on entendait dans l'extrait de votre création Ciel à la fois cette musique dont on a parlé, mais aussi un chuchotement à plusieurs reprises. On vous entend et ne vous entend pas parler. Quel est le régime de la parole et peut-être du récit, pour reprendre ce que disait à l'instant Latifa Labissi, dans votre travail?
Alors, dans chaque pièce, il y a un rapport à la parole. Pour Ciel, comme j'étais vraiment dans ces rapports de distance, j'ai choisi tout de suite le rapport du chuchotement et de la non-compréhension. Je me suis dit aussi, je suis associé, j'ai fait des alliances des corps avec des corps invisibilisés, où justement le logos, on va dire le pouvoir de la parole, peut-être n'est pas complètement acquis. C'est-à-dire que je ne cherchais pas tout à fait le dire, l'énoncé juste, mais plutôt l'idée d'une émission sonore, d'une parole presque primitive, d'une parole qui est en train de se construire. On peut penser à des bruits des cris, ou des bruits de pleurs, ou des chagrins, des bruits de révolte, des paroles qui traînent comme ça dans un coin du métro, ou qu'on entend quelqu'un et on n'arrive pas du tout à saisir le sens. Donc c'était très important pour Ciel de dire il faut jamais que cette parole soit complètement audible, qu'elle soit jamais accessible, et de garder la parole en tant qu'une émission sonore qui n'a rien à énoncer. Et ça va avec le propos de la pièce, parce que je disais souvent au début de mon parcours au Centre National de la Danse d'Angers, de répondre à la demande d'avoir un projet, d'avoir une idée, une chose qui est souvent réclamée quand on commence une école, quand on est chorégraphe, et je pense que c'est très important de tenir cette pensée. Mais j'avais pas encore tout à fait cette idée, ou cet énoncé, ou cette émission, ou cette phrase qui allait définir mon projet. Mais j'avais quand même beaucoup le désir d'une adresse. Et c'est là où j'ai inversé un peu la perspective en me disant, c'est pas parce que j'ai quelque chose à dire que je m'adresse, mais ça va être au contraire. Ça va être parce que je m'adresse.
J'ai d'abord envie de m'adresser.
Ouais, et parce que je m'adresse, c'est parce que ma danse, elle cherche une adresse, qu'elle va trouver son dire, elle va trouver son émission. Et c'est comme ça que je commençais à mettre en place cette pratique d'à chaque jour avoir une idée. Ah, et si je faisais ça? Et si je faisais celle-là aujourd'hui? Et si je changeais complètement ma manière de m'échauffer? Et si je change ma source? Ce n'est plus ce texte-là, je vais travailler avec cette image. Qu'est-ce que ça me permet? Tout à l'heure, je parlais de permissivité. Ça, c'était important pour justement élargir le champ de possible de qu'est-ce qui peut devenir un récit, qu'est-ce qui peut devenir une phrase. Et pour celle, c'était important de garder sur scène la représentation d'un état de travail, de cet état d'un chercheur aussi, de quelqu'un qui est en train de creuser, de fouiller sa thématique ou son affect le plus important à donc rendre partageable sur la scène.
Et ça a bougé parce que on l'a dit. Donc ça, c'est le premier travail que vous montrez. Vous êtes seul en scène. C'est aussi un premier travail depuis votre arrivée en France et à Angers. Et puis les pièces se succèdent, votre travail de recherche se poursuit. Et alors, quelle place prend petit à petit la parole, le dire, le discours ou le récit dans votre travail? Comment ça se modifie?
Ouais, ça se modifie juste après, par exemple. Inès, ça va être mon deuxième solo. Et là, justement, j'y prends une, comme on disait, Latifa, avec qui je partage beaucoup, avec qui j'ai appris aussi, c'est une référence très importante pour moi, avec qui j'ai appris aussi à réfléchir à la notion de figure, ou, comme elle disait tout à l'heure, la figure du réel, ou faire figure du réel. Donc, Inès, c'est une personne qui existe, c'est une femme qui est vivante, qui est toujours au Brésil et que je me suis inspiré pour construire ce solo, où c'était très important de commencer par écrire un texte pour me dire Inès, il faut qu'elle se présente. Et pour se présenter, il faut parler. Donc la parole, ça va être le premier lieu d'exposition, le premier champ d'apparition, parce qu'on est capable de parler. Et là, pour l'occasion, c'était vraiment parler pour dire quelque chose, pour faire une phrase avec une syntaxe particulière qui est capable d'une écoute, qui peut se mettre en chemin jusqu'au public, d'où la proximité cruciale de ma présence à ces moments. Je suis très proche du public, sans micro, mais justement pour que la parole puisse être audible et appréhensible. Donc là, c'était très important pour ce solo de parler. Donc 30 minutes de la pièce, on va dire la moitié, il s'agit d'un texte que j'ai écrit, ou même que je pourrais dire j'ai co-écrit à partir de recherches que j'ai fait autour de la vie d'Inès, et qu'après je commençais à transformer. Mais voilà, c'était un autre statut de penser à la parole comme l'endroit de l'exposition, de la première façon d'être appréhendé par l'autre.
Mais c'est quelque chose qui peut être complètement remis en question, Volmir Cordeau, quand vous dites pour se présenter, il faut forcément parler. On pourrait très bien dire que vous entrez sur un plateau et que vous vous présentez sans parler.
Oui.
Pourquoi ça s'imposait là?
Oui, ça s'imposait là parce qu'il s'agissait d'une figure qui traite le spectateur ou qui voit la salle comme un espace qui n'est pas forcément un espace du théâtre.
Peut-être qu'il faut dire qui est Inès pour qu'on comprenne.
Ouais, alors Inès est une femme qui a fait un tabac au Brésil lorsqu'elle a publié sur YouTube la vidéo pour rentrer dans un reality show. La vidéo qu'elle a envoyée. Et elle n'était pas prise, mais elle a fait le succès qu'elle souhaitait énormément. Elle a eu ce succès grâce à la publication de cette vidéo. Et ce qui m'a le plus intéressé chez Inès, c'était justement la capacité que la société a eue de la récupérer, de récupérer ses jargons, son logo, sa façon de parler, sa façon de mélanger un rapport à Dieu, à la religion, avec un rapport à la prostitution, un rapport à la drogue, à la danse, à l'art, à la télé. Tout ça, ça m'a complètement impressionné. C'était pas exactement sa vidéo à elle, mais le
comment elle a été digérée.
Exactement, l'intervention contextuelle qu'elle a eue, comment elle était vite récupérée. Et justement, c'était quelqu'un qui était absolument exposé, mais justement jamais réfléchi à des endroits où je pense elle pourrait poser question. C'est-à-dire que justement, le trop de lumière vers Inès a effacé un peu sa question, qui a été pour moi la question de ce qui nous étonne, ce qui nous effraie dans la parole d'Inès ou dans son corps. Ça nous concerne à tous. On est tous, on fabrique tous les corps qu'on voit, les corps qu'on s'effraie, ou les corps qu'on néglige, qu'on n'accepte pas de voir. On est tous participants. Donc, je voulais mettre en place les rapports d'interdépendance sociale. Et c'est pour ça que je me dis, mais c'est moi-même le premier à m'exposer. C'est la question de l'exposition. J'expose Inès tout en m'exposant aussi avec elle. Donc, ces textes que j'écris, il est aussi un forme de mélange entre mon identité ou ce que j'espère dégager en tant qu'artiste, associé à une figure du réel, à la figure d'Inès.
Et puis, ce rapport à la parole bouge encore. Par exemple, pour Rue ou pour d'autres créations, ça se transforme et ça se transforme selon quelle pensée, Volmir Cordero, dans vos pièces suivantes?
Alors, c'est souvent à partir des choses que je suis en train de lire. C'est-à-dire que quand j'ai une idée chorégraphique, c'est parce que je suis en train de lire quelque chose. Ça vient souvent d'une lecture. Et à ce moment, pour Rue, je lisais l'ABC de la guerre de Bertolt Brecht, et les poèmes, les courts poèmes, à chaque fois des quatre lignes très courtes qui étaient mises à côté d'une image, d'une photo, qui d'ailleurs il découpait depuis son exil aux États-Unis, donc il découpait des revues et puis il mettait à côté avec ces images. Et ces rapports des contradictions, la dialectique des données qu'il y avait entre ce que l'image disait et ce que le poème racontait, m'intriguait énormément et je disais, mais comment je peux faire ça aussi avec la danse? C'est-à-dire, comment je peux dire quelque chose et je peux danser une chose qui contredit ce que je suis en train de dire? Ou alors, dans un autre rapport de montage, comment je peux présenter un extrait, on va dire un fragment d'une danse qui va durer 3 minutes, et ensuite danser un autre fragment aussi de 3 minutes, mais qui vient contredire tout ce que j'ai fait avant. Et donc là, le récit, il a aussi un rapport de montage. Donc le montage qui est à la fois l'intensification d'une chose qui vient d'être dite, à la fois complètement j'ai envie de presque balayer ce que je viens de dire et pouvoir présenter une nouvelle chose. Mais là, pour le coup, c'était dans Rue, c'était l'aspect poétique, l'aspect très fragmenté, la notion d'interruption qui est très chère à Brecht, c'est ça qui va permettre la distanciation de sa poétique, de son théâtre épique, qui était pour moi très important de déplacer aussi dans la danse, voir comment je pourrais avoir de petites pièces, des pièces courtes, et qu'après je fais des montages, et ça va, selon chaque montage, ça va apporter un sens particulier.
Et pour finir, peut-être de réfléchir à cette archive de Latifa Labissi et de ce qu'elle raconte des figures du réel, en invoquant deux autres danseuses, le solo, la sorcière et autres, mais cette figure du réel m'interpelle lorsque vous dites à la fois, finalement, vous engagez dans un travail qui peut être comparable, d'être pour eux au réel, de vous en inspirer, de le faire tomber du ciel, pour reprendre vos mots, et en même temps, quand vous dites l'importance de la puissance de l'imaginaire. Est-ce que ce sont deux choses que vous allez opposer? Est-ce que ce sont deux choses qui se nourrissent? Comment est-ce que vous les envisagez tous les deux?
C'est une super question. Je trouve que je ne peux accéder à ce réel que par l'imagination. Je pense que l'imagination, elle a la faculté, comme je disais tout à l'heure, poétique et aussi politique d'accès à ce réel. Parce que l'imagination est celle qui va favoriser ou qui va inciter des rapports d'association et dissociation, comme on a bien lu, je pense, chez Jacques Rancière, Les spectateurs émancipés. Et je tiens à répéter cette partie où justement c'est cette question de croire au fait par l'imagination, par cette puissance d'association et dissociation, on peut agir sur le monde. C'est pas qu'on va sortir du théâtre, il va avoir une action directe dans les choses, mais c'est ce travail parfois très minuscule, lent, à long terme, qui est capable de générer d'autres formes d'appréhension de ce qu'on est en train de voir sur la scène. C'est là où je trouve qu'il y a le plus d'importance, en fait, dans ce qu'on fait.
C'est comme un accès.
Un accès, oui, comme un chemin, comme une possibilité de mettre en chemin des idées ou des rapports à des choses, à des corps, à des affects, que la scène a cette importance. Après, j'essaye de jamais penser que quand je vais sur scène, je porte une vérité ou je porte un savoir, même si je le porte, évidemment, mais c'est pas que je porte une connaissance, une vérité qui le spectateur ne la connaît pas. J'essaye à chaque fois de voir comment je travaille pour monter sur scène et me dire, on va chercher une circulation plutôt qu'un dépôt d'une vérité ou les moments d'une transmission. Je ne suis pas là pour transmettre quelque chose dans le sens de faire apprendre ou de rendre accessible quelque chose de nouveau. Ce n'est pas exactement ça, mais d'imaginer que ce réel-là, il est activé, il est travaillé, il est remué par l'imagination que je peux mettre en place comme un rapport d'association, d'alliance, d'alliance de corps. Ça, c'est le plus important. Donc, je ne pense pas qu'ils sont opposés, pardon. We came from the four corners, we are the raw waters, the cause, the four horsemen, we drink from the water, the pores, we carry the river, the reservoir, the residue, rising waves, sea spray, the inevitable churn and crush, many voices in our vapors, we surge and gush, we were steam and a distant heat, we move rapid over landscape, gathering speed, desert land, city, forest and beach, heading for the people to sleep, ready to bleed, unleash the torrents, come clean, carry many lessons, let the water teach, but you better learn to swim or you'll get caught beneath. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall. Par le temps qui court, Marie Michaud. Some saw us in their tea leaves, some felt us in their knees, most left it to the weathermen to tell them there was nothing to see. You can play dumb and ignore for so long, but we've been in the mountains getting strong. We've seen you filling up the sky with your fumes, sitting in your rooms like you're all that ever lived. Heads down to the lives of the others in your towns, running from the rains like you're never been kissed. Look, leave your possessions and funds, tell your friends that you've gone to make peace with the things you never done. Come dance in the dough, you spill like the flood, the weather vane swings, things will never change, single their money men who close their eyes and pretend that this rumble must be low playing so strange. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in. And they will run to the highest hill, consult the old books, ask the dead mystics for wisdom they don't trust. The people will flock to the garages, stockpile canisters of gasoline, tinned fish and bandages. Count the seconds between a thunder and a lightning, scared of every other body running round frightened. We can't carry on like this, you will mutter, staring with disgust at the people weeping in the gutter. Yeah, we made no trouble, we played by the rules. I worked double shift to get my kids through school, but you were so focused on your own little part, you went plowing on blind in the dark, no heart. Now we're not the dread storm that will end things, we're just your playful gale force friend in these end times. Come to remind you, you're not an island. Life is much broader than borders, but who can afford to think over the walls of this fortress? Of course it's important to provide roof and floorboards for you and yours, and be secure in your fortunes, but you're more than the three or four you'd go to war for. You're part of a people that need your support, and whose world is it if it belongs to these corporates? The people are left on the doorstep, door shut, nauseous and tortured by all that they lost. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in.
Mon corps est différent et je suis ruinée avec ça, mais aussi le grand amour de ma mère. C'est très très fort pour moi, pour ma vie, pour toute la vie. Maintenant aussi, l'amour est là, et c'est très très important pour moi, pour accepter mon corps, mon vie, et aussi le rêve des beautés, weil Leute finden meinen Körper nicht schön.
Puisque les gens trouvent que mon corps n'est pas beau, bien sûr.
Mais je parle sur la beauté. Et c'est nécessaire pour notre vie, pour tout le monde. C'est nécessaire, la beauté, la musique aussi, la beauté de la musique, les chanteurs. La beauté est très nécessaire pour nous. Ich bin immer der Hässliche dann gewesen, auch in Kritiken.
Oui, j'ai toujours été le laid du point de vue des critiques.
Mais je n'accepte pas. Le bossu, mais c'est pas moi. Le bossu, c'est pas moi. c'est quelque chose, mais c'est pour moi. Je suis beau aussi. Et pour moi aussi, le corps est comme un paysage. Et si la mer est là, et les montagnes sont là. Et tout est beau, la mer est beau, et aussi les montagnes sont beaux. C'est pas l'une est beau, l'autre non, pas. C'est pour moi aussi, avec le corps différent. Et pour moi, c'est très important, le corps différent existe. Existe aussi dans les nazis, en Allemagne, le corps différent aussi dans les concentration camps. So, c'est parce que je suis très, très sensitive avec ça. I fight for diversity.
C'est la voix de Raymond Hauge au micro de Laura Adler en 2016 sur France Culture dans l'émission Hors Champ, Volmir Cordero. Je trouve que ce qu'on entend le plus dans cette archive, où on entend beaucoup de choses, c'est quand il dit « mais c'est pas moi ». Le bossu, c'est pas moi. C'est quelque chose, mais c'est pas moi. Qui me semble faire écho à ce que vous disiez de l'état carcéral d'un certain regard qui oblige, par des questions juridiques, par des discours, par une organisation sociale et collective, qui oblige des corps et des êtres à être quelque chose. Et moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui réussit à dire « c'est quelque chose, mais c'est pas moi ».
Ouais. Ouais, c'est délicat, je sais pas trop bien. Je sais pas très bien parce que. Je sais pas très bien comment décider des frontières de ce qu'on entend par moi et ce qui n'est pas moi. Oui, genre, dans quelle mesure on arrive à comprendre les interventions contextuelles, sociales qui nous forment, qui nous normatisent, qui décident de ce qui rend le corps lisible, de ce qui rend le corps intelligible, ce qui va dire, ce corps, oui, c'est moi, je suis jusqu'à là, et après, dans ma bosse, je ne suis plus moi. C'est très mystérieux, je ne sais pas très bien. Et dans quel... Aussi, de l'autre côté, comment est-ce que nous-mêmes, on garde, on préserve la liberté de pouvoir inventer nos corps, de justement pouvoir nous dire « bah, mon corps, il commence ici, il finit ici ». C'est une question de parfois très subjective, de savoir par où commence le corps et jusqu'où il va. Donc, et ces corps-là, il est formé par qui ? Je ne sais pas très bien, ça me rend très confus, en fait.
D'autant que, pour revenir au tout début de notre entretien, vous disiez que s'il y avait quelque chose à abandonner, en tout cas dans cette pièce, c'était le moi, c'était l'identité. Que s'il y avait une recherche qui était très 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 présente, c'était l'idée que le c'est moi ou c'est pas moi ne soit pas
oui.
plus actif, plus intéressant.
Oui, après, voilà, il y a le moi, il y a aussi l'identification, la fixation qu'on fait de ces moi-là. De ce jeu ou de cette identité. Qu'est-ce que dans ces cas-là n'est pas avoué une physicalité? Dans quelle manière ça vient dire aussi n'est pas avoué aussi un projet de des revendications ou de militances presque, on peut dire, d'engagement pour des corps aussi qui sont comme ça et qui ont besoin d'affirmer comme ils sont pour exister tels quels. Je pense qu'il a aussi dans ce sens l'idée de pouvoir se débarrasser d'un moi, évidemment, mais on peut pas non plus se quitter complètement. C'est-à-dire qu'il y a là cette négociation à faire, cette porosité. Comment je peux être seul, comment je peux être avec d'autres sans être complètement livré et m'y perdre complètement, et comment je peux garder cette solitude sans tomber dans un isolement. C'est là où il y a une négociation qui est très nuancée, qui est très difficile à travailler.
Quand vous dites on ne peut pas complètement se quitter, ça me renvoie peut-être à une dernière question que je voulais vous poser, Volmir Cordero. Est-ce que le peuplement que vous vivez par la pièce Ciel, mais finalement aussi dans beaucoup de votre travail, est un peuplement qui demeure en dehors du plateau? Est-ce que vous êtes augmenté dans votre vie quotidienne quand vous allez sortir de la maison de la radio pour aller où vous voulez? Est-ce que vous continuez d'être un peu augmenté de tous ces corps?
Oui, Oui, complètement.
Et est-ce que ça change votre rapport à votre vie, au corps que vous pouvez regarder dans la rue, au corps que vous ne voyez pas et que maintenant vous voyez ou pas?
Je pense que c'est la chose qui m'impressionne la plus. C'est-à-dire quand je fais un voyage ou je me déplace, c'est souvent les corps ou les personnes qui m'intéressent le plus que l'architecture ou plus que le paysage, la géographie. J'ai une attirance très forte par les corps, par les attitudes, par comment ils se mettent ensemble, comment ils se séparent, comment on travaille les distances, comment on mâche, comment on clignote, comment on cligne les yeux. Tout ça, je pense que c'est ces paysages des corps qui m'intéressent le plus. Et c'est clair que ça devient une source d'inspiration, une source de formation de mon corps, d'auto-formation, le fait de pouvoir attraper par le regard tout ce qui se passe.
Et qui va jusqu'à ce que vous disiez tout à l'heure, être capable d'inventer son propre corps et d'en faire bouger les limites. Mon corps va jusque-là, ce que je suis va jusque-là, comment cela ça se nourrit, y compris, je sais pas, dans votre tête, de tous les corps que vous observez, de tous les corps que vous incarnez.
Complètement.
Et donc, par exemple, vous avez vu votre corps bouger beaucoup entre la création de Ciel en 2012, je crois.
Complètement.
Et maintenant?
Tout à fait, oui. Oui, complètement. Ça se transforme, même si l'écriture, elle reste la même. Il y a un corps qui a complètement changé, qui a changé grâce à cette porosité, à cette ouverture, à se laisser aussi traverser par d'autres corps. Je suis toujours très, très impressionné de quand on ressent de manière spontanée qu'on est en train de faire le geste de quelqu'un d'autre qu'on a vu, alors qu'on n'avait même pas la volonté ou l'intention de le faire. Et ça nous arrive souvent. Et même en dansant, parfois, je suis en train de faire le spectacle, je me dis, ah tiens, cette sensation ou cette attitude-là, elle n'avait pas été... elle n'est pas originelle dans le sens que je l'ai conçue, je l'imaginais. Elle me possède, c'est-à-dire ça me tombe dessus, ça m'arrive de l'extérieur. Et chercher cette sensation, je pense que c'est la chose qui m'intéresse la plus dans la danse, dans le travail du corps, de voir les restes, les traces d'autres corps, d'autres contextes qui débarquent comme ça, de manière soudaine dans nos corps.
Merci beaucoup Volmir Cordero. C'était une des discussions possibles à partir de Ciel qui sera joué du 5 au 7 avril prochain au Centre Pompidou à Paris. Et puis le reste de votre travail, par exemple, on n'a pas parlé de la récente exposition au Centre National de la Danse à Pantin, mais ce sera pour une prochaine fois.
Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow.
Par les temps qui courent, où est la joie?
Dans la fête.
Par les temps qui courent, où surtout ne pas mettre les pieds?
Où ne surtout pas mettre les pieds? Je dirais alors dans les mépris.
Par les temps qui courent, quel livre garder ouvert?
Alors je vais parler du dernier, un livre de Hans Belting qui s'appelle « Face, histoire du visage ».
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, c'était Guillaume Ledieu à la réalisation Lise-Marie Barré, Jeanne Léos, Aurienne Delacroix, Romain de Bec de Lièvre m'aident à penser cette émission et quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.
Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost switching. There's a soldering blue line between my eyes.